voilà à nouveau sur les ondes de Radio Galère, 88.4 sur la modulation de fréquence, et sur internet www.radiogalere.org et sur la DAB également. Voilà, je retrouve avec plaisir Roselyne qui est sous son casque. Alors, allez pas chez le coiffeur en train de faire une mise en pli, c'est un autre type de casque qu'on utilise ici,
oui,
à Radio Galère.
Bonjour à tous les auditeurs et les auditrices.
Voilà, bonjour. Et puis, on fait un salut à notre ami Habib qui est encore un peu souffrant. Il a fait une mauvaise chute et il s'est fait mal. Bon, donc il est souffrant, il répare ses blessures et on espère le revoir bientôt à l'antenne à nos côtés. Et puis, tout à l'heure, à un moment donné, j'évoquerai son papa pour parler de lui d'une autre façon, et vous verrez de quelle façon. Voilà. Alors, je commence par renouveler ce que j'ai fait la semaine dernière, l'annonce pour l'émission de demain, donc la fameuse émission mensuelle de Comaguerre, qui consiste en un interview de présentation d'un nouveau livre qui a été publié par 4 personnes, sous la direction d'une sociologue qui s'appelle Danielle Blétrac, et que vous connaissez peut-être si vous consultez son blog, qui est un blog très politique, très géopolitique, qui s'appelle « Histoire et société ». Voilà, je le signale, puisqu'elle a un travail permanent, elle publie tous les jours de nouveaux textes avec des commentaires, et donc elle est très très au courant de l'actualité internationale. Au jour le jour, elle consulte énormément de sites, elle fait faire par sa complice Marianne Dunlop toute une série de traductions, donc on a là un outil d'information d'excellente qualité et il n'y a pas beaucoup d'équivalent en France. Donc on l'aura demain à l'antenne pour parler du nouveau livre qu'elle vient de publier concernant la Chine, les BRICS et la France. Je simplifie, on développera demain, on aura le temps de le faire. Et on appellera pendant l'émission, le sinologue de service, en l'occurrence, à collaborer à le travail de ce livre, un personnage qui est peu connu du grand public, très discret sur Internet, mais qui fait un énorme travail parce qu'il consulte, en version anglaise je crois, la plupart des sites idéologiques et politiques de la Chine populaire. Je veux dire, bien évidemment, les sites gouvernementaux, les sites des différents ministères, les sites du Parti communiste, les sites des grandes universités, les sites des colloques, enfin, ou des groupes de réflexion sur tel ou tel sujet. Donc on a à travers lui, il s'appelle Jules Julien, je le salue d'avance, on a à travers lui une vraie vision de la Chine au jour le jour avec des documents venus de Chine. Donc très très loin des commentaires sur la Chine est ceci, la Chine est cela, il constitue à lui tout seul une véritable mine qu'il a mis à la disposition de ce livre, une véritable mine de connaissances à jour sur tous les aspects de la société socialiste chinoise. J'insiste sur ce thème, on y reviendra demain, mais il s'agit bien d'une société socialiste qui est donc une société dirigée par un parti, qui est un parti communiste, qui avance dans la construction d'un régime où, je vais faire simple, tout le monde doit manger à sa faim et tout le monde doit avoir un travail et un logement. Ça a l'air de rien comme ça, mais quand on met ça à l'échelle de 1,4 milliard d'habitants, en plus en nombre un peu ralenti maintenant, mais en croissance importante. Je rappelle qu'en 1949, le 1er octobre 1949, quand la Chine populaire est proclamée comme pays indépendant, la Chine populaire compte 500 millions d'habitants. Alors, comptez de 500 millions à 1,4 milliard, il y a 900 millions de bouches de plus à nourrir. Imaginez le problème que ça peut poser, enfin, imaginez même les tracas que peut avoir un gouvernement quand il doit se dire « je vais avoir », ou il le dit pas à l'avance, il le sait pas, mais il a fait face grosso modo avec quelques pépins des erreurs de parcours ou des difficultés de parcours, mais il a réussi globalement, si on remonte de 49 à aujourd'hui, à nourrir tout le monde tout le temps. Alors, les mauvais coucheurs diront « oui, mais à telle période, il y a eu un creux, il y a eu des famines, etc. » En fait, le résultat reste, on ne gagne pas 900 millions d'habitants si les gens meurent de faim régulièrement. Ça n'empêche pas les erreurs, les périodes où des difficultés dans les récoltes, les périodes de troubles politiques, bien entendu. Ça fait partie du dispositif. Mais ça ne change pas la perspective donnée à tous les gens qui naissent chinois sur le territoire de la République populaire de quoi manger, habiter, travailler. programme minimal, mais programme socialiste à l'évidence. On y reviendra, on évoquera un autre personnage tout à l'heure. Donc ça, c'est demain à 21h, de 21h à 21h30, donc avec Daniel Beltrac, directement dans le studio, et Jules Julien, le sinologue dont je viens de vous faire très très rapidement le portrait, qu'on aura en ligne depuis son repère, là où il continue ses recherches sur la Chine et l'espèce d'archivage massif de données sur la Chine contemporaine, telles qu'ils sont effectivement disponibles, si on prend le temps de le faire. Alors, au passage, ça souligne que les bons esprits, enfin, qui se croient tels, qui sur telle antenne, tel écran de télévision, se mettent à faire un portrait en quatre phrases de la Chine populaire, et qui n'ont pas pris le temps, comme lui, le prend en permanence d'aller voir effectivement les sources chinoises, ce qu'on en dit, y compris il y a des sources critiques. Il n'y a pas du tout une unité de pensée du régime. Le parti a sa position, le gouvernement a sa position, les groupes de pensée, ce qu'on appelle les think tanks en Occident, ont leur position. Il y a des gens qui contestent tel et tel aspect de la politique. Il ne faut pas croire que la Chine est une espèce de géant monocolore où tout le monde annonce la même chose. Ce n'est pas du tout vrai. Et d'ailleurs, est-ce que c'est même d'abord possible au niveau de 1,4 milliard d'habitants de mettre en place un système policier où tout le monde se tait? Ça paraît difficile, et ça paraît surtout difficile à tenir pendant une longue période. Et est-ce que c'est souhaité? Manifestement, c'est pas souhaité. Le soin avec lequel, par exemple, le gouvernement chinois s'occupe de donner la parole dans une assemblée qui n'est pas le bureau politique permanent du PC, mais pour tous les gens qui ne sont pas au Parti communiste, ils ont une assemblée à eux pour s'exprimer, donc ils peuvent dire librement, le Parti communiste chinois qui gouverne a fait une erreur, on fait des observations sur tel et tel point, telle minorité a été maltraitée, si ça arrive, elle peut le dire puisqu'elle est partie, elle fait partie, elle est représentée dans ce parlement particulier. C'est toutes ces connaissances concrètes, pratiques, opératoires de la Chine populaire qui arrivent à travers Jules Julien et qu'on peut retrouver par ailleurs quand on s'en donne la peine. Évidemment, quand on ne s'en donne pas la peine, on va caricaturer, on va dire « la Chine est capitaliste ». Et puis voilà, c'est classé, on a mis ça dans une petite boîte, ça ne fait pas avancer le débat et ça ne prouve pas une très grande curiosité ni une très grande intelligence politique de la part de ceux qui se contentent de ça, sans regarder l'histoire, sans regarder tout ce qui s'est passé avant 49, tout ce qui s'est passé depuis 49 et qui ne voient pas. Ils le voient, ils sont bien obligés. La place exceptionnelle que tient aujourd'hui la Chine populaire dans la société mondiale et pas seulement dans l'économie mondiale. Car, c'est la dernière chose que je dirais là-dessus, il faut bien savoir et bien comprendre que le président chinois actuel, Xi Jinping, passe son temps à dire le problème de l'humanité, pas le problème de nous, les 1,4 milliard, le problème des 8 milliards d'habitants, c'est de bien comprendre et de s'organiser pour réaliser qu'ils sont tous sur la même planète et qu'elle n'est pas interchangeable. Donc ça nécessite de revoir les rapports entre tous les membres de cette immense communauté de 8 milliards de personnes, en évitant qu'effectivement que les rapports dégénèrent et qu'il y en ait qui marchent sur les pieds des autres. Vraie problématique politique et applicable, et ça viendra certainement demain dans le débat, applicable à tous les autres pays, dont évidemment la France, l'Union européenne, les États-Unis. Il faut que nous réfléchissions comme ça, et pas de dire la Chine est ceci, la Chine est cela. Non, nous sommes tous sur la même planète, avec ses limites, on les connaît de mieux en mieux, on voit les contraintes que ces limites imposent, et il faut que nous vivions tranquillement, le plus tranquillement possible, sur ce grand bateau. Voilà. Cette introduction faite, je vois que Roselyne a des soucis techniques. Non, ça va. On va voir. Problème de musique, on verra tout à l'heure. Bien, alors on va commencer par faire un point sur la guerre en Ukraine. Point important dans la mesure où, petit à petit, alors vous savez que donc le 1er et le 2, il y a eu ces fameuses attaques des bases stratégiques, accompagnées ou complétées, j'allais dire, par des attaques de type terroriste sur des installations civiles en Russie. Un train de voyageurs, effectivement, un train de voyageurs n'est pas un objectif militaire. Quand on fait 10 morts dans un train de voyageurs, ça aurait pu être pire, une centaine de blessés, on n'est pas dans le cadre de la guerre, on est dans le cadre d'une action terroriste menée par un État qui s'en revendique et qui en est fier. Bon, donc cet État est un tueur terroriste en tant que tel, qui met sur pied de tels programmes et qui les réalise. Bon. Et donc, depuis cette date-là, puisque les deux événements se sont succédés, d'une part les attaques terroristes et d'autre part l'attaque des bases militaires stratégiques de la Russie, chacun essaye de voir quel rôle a joué l'un ou l'autre et qui a pris la décision, comment elle s'est prise. Alors, le premier, l'énorme point d'interrogation, puisqu'il y a un énorme point d'interrogation, c'est est-ce que Trump savait ? Et là, effectivement, on ne sait pas. On ne sait pas, puisque Trump s'est bien gardé de faire aucun commentaire officiel, si ce n'est après la bataille, quand il a reconnu que si la Russie était un peu en colère, ça se comprenait et que inévitablement, il y aurait probablement un contre-coup ou une riposte à ses attaques. Pas plus, mais il n'a rien dit sur « je savais pas » et tout. Il n'a surtout pas dit « j'ai donné mon accord ». Parce que ça, c'était dramatique. Je vais expliquer pourquoi. Donc, Trump reste dans cette demi teinte, il sait ce qui s'est passé, comme le monde entier, il sait ce qu'on lui a dit, si on lui a dit des choses, et puis il sait qu'il faut surtout qu'il prenne pas de risque en disant c'est moi, surtout si c'est pas lui. Alors après, les hypothèses sont de plus en plus nombreuses et on a des tas de contributions comme celle de Jeffrey Sachs, comme d'autres observateurs de la réalité internationale. Et une des dernières qui est très autorisée, c'est une contribution de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, qui à l'occasion d'une conférence qui était destinée à réfléchir, voilà, c'est une espèce de conférence de prospective politique sur le thème « Comment sera le monde en 2050 ?». Alors ça n'engageait à rien, mais chacun pouvait effectivement dire à partir de ce qu'on voit aujourd'hui, on peut imaginer qu'on va dans telle et telle direction, qu'il y aura tel et tel grand événement ou telle et telle grande évolution. Et tout. Et Lavrov, au début de sa présentation de ce débat, puisqu'il a été, loin s'en faut, pas le seul à intervenir, a dit bah, « écoutez, ce qu'on pense aujourd'hui, d'après les éléments qu'on a pu rassembler, donc c'était samedi dernier, donc ils ont eu une bonne semaine pour recouper toutes les observations qu'ils ont pu faire », l'opération générale menée, d'une part l'opération terroriste et d'autre part l'attaque des bases militaires stratégiques de la Russie, a été menée par les services britanniques. C'est parfaitement clair. C'est parfaitement clair. C'est les services britanniques qui ont mené tout ça. Voilà. Oui, alors il est absolument limpide et il ajoute, par contre, les États-Unis, les services des États-Unis ont été d'une grande inertie. Ce qui veut dire, comme je disais par rapport à Trump, personne n'a dit quoi que ce soit. Tout le monde est resté cantonné dans son coin. On a dit, c'est les Anglais qui ont fait le business. Si quelqu'un d'entre nous, que ce soit la CIA ou le Pentagone et tout, leur a donné leur accord, c'est sur un coup de téléphone entre copains. Mais surtout, on n'y est pour rien. Et donc, c'est les Anglais qui ont tout mené et les Anglais assument. C'est-à-dire que c'est la position de Starmer, on l'avait compris dans différents événements précédents. Les Anglais assument, et au fond, il y a une espèce de partage des rôles qui se joue entre certaines sphères des États-Unis et les services britanniques et le gouvernement britannique. C'est-à-dire le gouvernement britannique prend en charge ce que certains dans la sphère dirigeante des États-Unis voudraient faire, mais n'osent pas l'avouer. Pourquoi ils n'osent pas l'avouer ? Parce qu'ils savent que ce n'est pas tout à fait la position de Trump. Ils se feront gronder s'ils font vraiment ça et s'ils affichent c'est eux qui ont organisé l'opération. Donc tout ça est un travail souterrain, c'est-à-dire qu'on a affaire à la Grande-Bretagne en tant qu'agent d'une fraction du pouvoir états-unien qui essaye de passer entre les gouttes et qui évite à Trump de se faire prendre au piège en disant « moi je fais d'un côté des discours sur la paix et je donne l'autorisation de la main gauche de faire des bombardements tous les matins bon. ». Donc on protège ainsi Trump, ça lui permet de rester dans une espèce d'entre-deux d'ambiguïté, et les Anglais assument tout. Alors les Anglais assument tout parce que d'abord, ils aiment ça. D'abord, ils aiment ça, les Anglais. Ah, je salue l'arrivée d'Habib, qui nous a rejoint. Voilà. Donc, bon, bienvenue, Habib, on est content de te voir. Voilà. Les Anglais assument ça, parce qu'il ne leur reste que ça. C'est pas l'Empire britannique. Bon, il leur reste que Gibraltar, Chypre, des choses comme ça. Bon, mais ils assument ce rôle-là, parce qu'en fait, ils se retrouvent dans ce rôle de chef d'empire, avec une volonté de destruction de la Russie et de la Chine qu'ils ont toujours partagée. C'est-à-dire, c'est la même politique qu'ils appliquent, qu'ils voulaient... Alors, ils n'ont plus la force de l'appliquer tout seuls, mais au fond, s'ils arrivent à amener les États-Unis à faire la politique dont ils sont nostalgiques, c'est-à-dire casser la Chine, casser la Russie, etc., et garder l'emprise sur la totalité du monde, les Anglais sont contents. Alors, ils vivent un peu dans le souvenir, mais comme on leur a délégué l'ambiguïté états-unienne, a fait qu'ils ont pris ce rôle-là et qu'ils s'y sentent tout à fait à l'aise. Alors, les Anglais, le gouvernement travailliste actuel de M. Starmer, je ne suis pas sûr et je suis même certain que dans la masse de la population britannique, on trouve ça très bien. Mais les nostalgiques de l'Empire sont définitivement très contents, puisqu'ils reviennent comme s'ils étaient les maîtres du jeu actuel.
Et du coup, est-ce que Charles y est pour quelque chose aussi ?
Alors Charles, bon, Charles d'abord est en mauvaise santé, ça c'est un aspect secondaire, mais Charles en fait joue une politique impériale assez particulière, et j'y reviens parce que je voulais évoquer le sujet la semaine dernière et je n'ai pas pris le temps de le faire. Charles est allé au Canada assister à la mise en place du nouveau Parlement et du nouveau gouvernement qui en est issu. Alors effectivement, il y a un lien officiel, puisque effectivement, là, le Canada est membre du Commonwealth, et que quand vous allez, par exemple, si vous achetez un timbre au Canada, il y a l'image, il y avait l'image d'Elisabeth II, maintenant il y a la tête de Charles III sur les timbres. Donc effectivement, c'est bien un pays du Commonwealth, et donc en fait, le souverain, puisque le Canada n'est pas une vraie république, c'est une espèce de monarchie constitutionnelle, le souverain, c'est bien Charles III. Alors jusqu'à présent, et d'une façon générale, le représentant, alors là il est venu lui-même, il y avait un représentant sur place, un monsieur ou une dame qui était gouverneur du Canada, à côté du président du Canada et à côté du premier ministre du Canada, qui à l'occasion pouvait mettre un petit grain de sel sur un commentaire de la situation. Mais ça, il y a eu des cas très très peu nombreux, ça pouvait jouer en cas de crise institutionnelle au sein du Canada et tout, mais ils étaient plutôt discrets. Ça n'allait pas bien loin. À l'inverse, Charles III est venu lui-même à Ottawa assister à l'installation du nouveau Parlement et du nouveau président. Et il est venu lui-même se positionner en disant « Nous sommes les Anglo-Saxons, moi le Canada, puis l'Australie, la Nouvelle-Zélande et tout, et nous sommes des conseillers intelligents du voisin d'en dessous. » C'est-à-dire qu'eux aussi sont embarrassés par la politique de Trump. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Est-ce qu'il veut la guerre ? Est-ce qu'il veut la paix ? Est-ce qu'il marche avec nous ? Est-ce qu'il nous obéit ? Alors, ils ont de bonnes raisons de dire qu'il ne nous aime pas, puisqu'en fait, l'histoire des droits de douane, il y en a eu pour le Canada, il y en a pour les autres, etc. Donc, ils se sont sentis vexés. Et donc, du coup, Charles III vient avec le nouveau Premier ministre canadien dire « Nous, on est les Anglo-Saxons, et ça ne veut pas dire qu'on est aligné sur la position de Trump ». Ça veut dire aussi, sous-entendu, que par contre, on peut appuyer les gens qui, aux États-Unis, du genre des démocrates par exemple, sont contre la politique de Trump. Mais ça, on ne le dit pas officiellement. On dit simplement que la politique de Trump nous inquiète, surtout quand il nous met 20% ou 30% de droits de douane. Bon. Donc, jeu très particulier donc, de la monarchie britannique qui se retrouve, elle vit dans une espèce de nostalgie impériale. Et l'espèce de paralysie concrète, c'est-à-dire les États-Unis dans l'incapacité de formuler une politique claire et de l'appliquer, puisque c'est ça l'état actuel des États-Unis, leur permet de se donner une importance qu'ils n'ont évidemment plus. Mais ils savent, dans la classe dirigeante états-unienne, sur qui s'appuyer, de qui se méfier, qui contrecarrer, et donc ils profitent de ce jeu-là un peu bizarre. Mais c'est ça la situation qui est bien décrite par Lavrov qui dit, en fait, tout a été organisé clairement par le MI6 et les services de renseignement britanniques, et ils ont obtenu, alors, par exemple, j'allais vous dire, réfléchissez. On a parlé des bombardiers, donc de décollage éventuel, surveillés donc par les caméras, par les États-Unis depuis longtemps, sur une série de bases. Alors on a parlé de 5 bases. Alors imaginez le territoire russe et imaginez le nombre de bases aériennes militaires qu'il y a sur cet immense territoire de plusieurs milliers de kilomètres de long. Il n'y en a pas que 5. Comme par hasard, les drones ont tapé sur 5 de ces bases. Qui a donné la carte ? Eh bien, c'est les États-Unis qui l'ont la carte, puisque les États-Unis, plutôt que d'aller regarder tous les jours tous les aérodromes de Russie, savent bien que les avions qui sont sous surveillance sont dans ces endroits-là et qui n'en bougent pas. La réciproque étant vraie, puisque les aéroports sur lesquels, aux États-Unis, il y a des bombardiers stratégiques, des B-52 stockés, ils sont sur une série d'aéroports dont la Russie a la liste et elle a ses objectifs, ses caméras fixées dessus. Mais elle ne cherche pas sur tout le territoire des États-Unis. C'est ça les accords START, les quand de, hein, on a confiance. Je vous dis, mes avions, ils sont là. Vous me dites, nos avions, ils sont là. Chacun observe. Et s'il y en a un qui triche, à ce moment-là, on se téléphone et on se fâche. Hein. Mais c'est tout. Donc, la Grande-Bretagne ne sait pas. La Grande-Bretagne n'est pas signataire des accords START. Donc, si quelqu'un lui a donné l'adresse des 5 aéroports où il y avait les avions en question, c'est quelqu'un des services militaires ou de renseignement des États-Unis. C'est pas Trump. Hein. Ça peut ne pas être Trump. Hein. Trump n'est pas forcément mouillé là-dedans. Mais ils avaient les bonnes adresses. Alors heureusement, on sait qu'en plus, sur les 5, ils n'en ont attaqué qu'une vraiment. Peut-être une seconde et les 3 autres, ils n'ont rien pu faire. C'est-à-dire leurs tirs ont été déjoués. Mais c'est ça la réalité de l'exercice concret du pouvoir aujourd'hui sur la planète. C'est-à-dire des États-Unis qui sont coincés dans leur conflit interne, alors conflit entre les démocrates et les républicains, ça c'est pour faire simple, conflit à l'intérieur des républicains entre par exemple Elon Musk et le patron, hein, puisque maintenant ils sont fâchés, conflit de toute autre sorte, les désaccords probables qu'il y a entre Marco Rubio, qui est un activiste anti-communiste, antisocialiste, forcené, alors qu'il gêne même un peu Trump parce qu'il en veut trop, il veut tout casser à Cuba, au Venezuela, etc. Donc c'est difficile de maintenir un discours un peu d'apaisement avec un secrétaire d'État de ce gabarit. Bah, tout ça montre une grande, grande confusion qui est à l'image de la confusion de ce pays. Alors si on ajoute à la confusion de son pays que le gouverneur de Californie est en guerre contre le président des États-Unis, alors en guerre, je mets les guillemets qu'il faut, c'est-à-dire, vous savez que dans les dispositions prises par Trump contre l'immigration, il y a une réaction extrêmement forte de groupes organisés en Californie. Alors pourquoi en Californie et groupes organisés? Parce qu'en Californie, il y a beaucoup d'endroits où on ne parle plus que de l'espagnol, où les récoltes sont toutes ramassés par des gens qui viennent du Mexique ou plus au sud du Guatemala et tout. Et donc, en fait, la minorité hispanisante, ils ne parlent même plus anglais entre eux, c'est pas la peine, hein, est très très importante et qu'elle ne veut pas, en application des décrets de Trump, repartir. Ça c'est tout à fait clair. Bon. Alors, comme elle s'est agitée, Trump a été obligé de montrer qu'il était le président. Et en fait, il s'est embarqué dans une histoire difficile, puisqu'en fait, il faut savoir que dans la Constitution des États-Unis, le rapport entre les États et la Fédération ne sont pas bien détaillés, pas bien précisés. C'est-à-dire que dans ce cas, l'affrontement entre un gouverneur... Je rappelle que la Californie, c'est entre 30 et 40 millions de personnes. C'est pas le Dakota du Sud. Hein. C'est un gros morceau. C'est une bonne partie de la richesse des États-Unis. Et donc, quand le gouverneur de Californie se met en travers du chemin du président, on a forcément des étincelles parce que la Constitution n'a pas prévu de procédure d'arbitrage. Et donc, Trump envoie une partie de la garde nationale. Alors, il envoie l'armée pour calmer des manifestations de rue. Enfin, il est embarqué dans une affaire très très difficile. On ne sait pas ce qui va en sortir. Il y aura probablement un modus vivendi qui sera trouvé, parce que je vous dis, la Constitution ne donne pas de réponse. Donc il faudra bien qu'il trouve un terrain d'entente. Ceci étant, c'est un nouveau signe de la fragilité, de la complexité de la situation des États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire que sans hispanophones, la Californie, ça ne marche pas. Hein. Bien sûr, il va rester Google, Apple, etc. Ça oui, mais tout le reste, tout ce qui est l'activité de tous les jours, hein, les transports en commun, l'enlèvement des ordures ménagères, le jardinage, l'agriculture, etc., tout ça, c'est des hispanisants. Bon. Et si vous enlevez les hispanisants, la Californie, elle s'arrête. Hein. C'est tout. Bon. Et donc, c'est pas possible. C'est pas possible, mais comme il faut pas regarder, enfin, on ne veut pas là-bas regarder le problème de face, on bricole avec, et donc le conflit risque de durer un certain temps. Alors, ce qui choque encore à la Maison-Blanche, c'est que dans ces manifestations de migrants, le plus souvent sans papier, il y en a qui sortent avec le drapeau mexicain. Alors là, ça devient encore plus cruel, parce que ça rappelle que l'histoire des États-Unis, c'est aussi l'histoire d'une conquête coloniale des pays d'à côté, en particulier du Mexique. Alors, c'était pas le Mexique aujourd'hui, République démocratique et tout, c'était le Mexique colonie espagnole, mais c'est bien un travail de colonisation. Quand les États-Unis ont récupéré tout le quart sud-ouest, en gros, de leur pays, c'était qu'ils l'ont pris à la monarchie espagnole. Bon, ça ressort, parce que c'est pas si loin que ça. Donc voilà, la situation aux États-Unis, elle est extrêmement complexe et elle explique cette espèce de flou sur le cas ukrainien. Bon, on ne sait pas qui a décidé, donc les Britanniques disent non, on affirme, c'est nous, on a tout fait, etc. Ils le font sur la base de renseignements qu'ils n'avaient pas, donc quelqu'un leur a donné, mais au moins on ne peut pas dire c'est Trump qui nous a dit d'eux. Et ça sauve Trump. Il est peut-être très content d'être sauvé parce que ça lui permet de tenir tous les discours à la fois. Je veux la paix, je veux la guerre, etc. Je ne sais plus d'ailleurs où il en est de cette réflexion-là. Personne ne le sait. Et puis le personnage est fantasque, probablement un peu instable. Et puis il doit commencer à se poser des questions. C'est-à-dire qu'il est arrivé, souvenons-nous, les premiers jours de février 2025, Trump signait des décisions à longueur de journée des quantités de décisions. Et puis, en fait, quand on fait aujourd'hui, 4 mois après le bilan, tout n'a pas si bien marché. À telle enseigne, bon, ça n'a pas un rapport direct au sujet, que les négociations commerciales entre la Chine populaire et les États-Unis viennent de commencer. Non pas pour savoir si on reste à des droits de douane de 150%, mais à quel niveau on va se situer, entre 10-20%, enfin des niveaux gentillés, supportables, et encore la négociation ne fait que commencer, et on peut faire confiance aux Chinois pour ne pas se laisser marcher sur les pieds. Tout ça fait que la situation est extrêmement instable.
Les drones qui ont été bombardés en Russie, c'est des drones qui ont été montés en Russie, il paraît.
Ça aussi.
Alors on ne sait pas très bien.
On ne sait pas très bien parce qu'enfin, il semble bien, effectivement. Ce qu'on sait, ce qui appelle un peu, ne fait pas de doute, c'est que les drones ont été commandés depuis un lieu proche de la base qui a été bombardée, depuis un camion. Donc le conducteur du drone était installé avec son écran et tout. Et donc, ils ont fait quelques centaines de mètres pour aller faire
le camionneur ne savait pas.
Le camionneur lui-même. Alors, il y a des camionneurs qui ne savaient pas ce qu'il y avait dans le camion. Et donc, ça peut être ça. Alors, est-ce que les drones ont été montés là? Alors, à propos de drones, je vais faire une incidente parce que c'est très, très intéressant. Parce que où se montrent les drones? Alors là, il y a ceux-là. Ouais. Et puis, il y a les drones qui sont utilisés. Tous les jours, l'armée ukrainienne utilise des drones.
Ouais. Bon.
Alors, il faut savoir, et ça, c'est un point important sur l'évolution de la guerre, c'est que de plus en plus, le travail militaire, la fabrication militaire, est installée dans des lieux civils. C'est-à-dire que l'Ukraine a compris qu'effectivement, la Russie avait choisi comme stratégie de détruire le potentiel militaire de l'Ukraine, et donc elle tirait sur les usines d'armement, les usines de drones, les usines de mortiers, les usines de canons. Bon. Dès l'instant où l'Ukraine a compris cette stratégie, elle a dit maintenant, je dois disparaître dans la nature. Et donc on sait, puisqu'il y a eu un reportage dans un quotidien espagnol, je crois que c'est hier ou avant-hier, expliquant que dans des maisons anonymes, dans tel quartier de telle et telle ville, on a installé un montage de drones chez Monsieur X, chez Madame Y. Et donc effectivement, alors à ce moment-là, le piège, alors la Russie finit par le savoir parce qu'ils sont bien renseignés, mais ça veut dire que si on décide d'éliminer cet atelier de montage de drones, on va tuer les civils de cette maison. Et donc, le jour même, on aura dans le monde entier, l'AFP, Reuters, ils tuent des civils. Ils tuent des civils qui étaient en train de monter des drones. Mais ça, on ne le dira pas. Ça ne sera qu'une moitié de la vérité. Vous voyez, tous les pièges qui se tournent, qui se fabriquent autour de cette guerre bien particulière. Donc, il y a une guerre à la fois concrète, il s'agit bien de pousser l'ennemi à l'extérieur, et puis une guerre médiatique, il s'agit que toute intervention, toute action de l'ennemi russe puisse être transformée en une agression verbale contre la Russie. Et ça, effectivement, il y a un certain nombre de pros de ce genre de manipulation autour du gouvernement ukrainien, c'est tout à fait clair, et pros qui sont dans le travail relayé abondamment, surabondamment dans nos médias occidentaux, puisque on a beaucoup de peine à trouver dans les grands médias occidentaux quelqu'un qui prend la peine d'aller un peu rechercher. Alors, je reparlais de El País, donc qui est le principal quotidien papier espagnol, qui n'expliquait que ça. Non, il y a un atelier où on fabrique des drones. Il n'expliquait pas la suite, et la suite, je l'ai dit, c'est si l'armée russe tire sur cet atelier de fabrication des drones, on va dire la Russie a attaqué des civils. On a compris la mécanique. Voilà, ça c'est le contexte général. Donc qu'est-ce qui s'est passé précisément? On ne sait pas exactement. Donc les Anglais assument, Lavrov a confirmé, c'est les Anglais qui ont tout organisé, bon on n'en parle plus, et ça permet, si vous voulez, à la Russie de maintenir la porte ouverte à un Trump compatible, russo-compatible. Ils ont encore espoir, on verra si l'avenir le dira, ils ont encore espoir que Trump soit accessible à des sentiments de négociation avec la Russie. Bon. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup avancé, mais ils ont cet espoir-là. On verra pour la suite. Sur la guerre elle-même, telle qu'elle en est aujourd'hui. Alors, des grandes évolutions dans ces derniers jours. Car depuis l'attaque des bases stratégiques, la Russie a très très bien compris comment ça se présentait et donc a décidé d'accentuer son effort de guerre, très clairement. Et le premier élément très très important sur lequel j'insiste, c'est que vous savez que dans les deux républiques du Donbass, il y avait donc le Donetsk et le Lugansk, que le territoire de Lugansk était totalement libéré, il n'y avait plus aucun soldat ukrainien sur le territoire de Lugansk. Par contre, dans la république du Donetsk, il y avait encore, jusqu'à la fin de la semaine dernière, des soldats ukrainiens. C'est fini. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus un seul soldat ukrainien sur le sol de la république russe de Donetsk. Ça veut dire que le Donbass est totalement libéré de l'occupation ukrainienne. J'appelle ça comme ça, puisque ce n'était pas autre chose. Ouais. On avait des troupes ukrainiennes dans deux républiques, enfin surtout dans celle du Donetsk, qui sont des républiques russes depuis 2022, clairement, avec vote de la population, acceptation par la Douma russe, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc la Russie est chez elle, elle n'était pas encore... C'est elle. Alors ça renverse beaucoup la façon dont on nous présente les choses. C'est la Donetsk qui était occupée par les Ukrainiens. L'agresseur, c'était l'Ukrainien. Ouais. Bon, l'Ukrainien, il est parti. L'Ukrainien, il est parti, et j'allais dire, emporté par leur élan, les troupes russes continuent d'avancer dans la région d'à côté, qui est celle de Dniepropetrovsk, oui. Et puis en dessous, il y a celle de Zaporoïe, c'est-à-dire qu'ils sont en train maintenant d'avancer, en ayant, j'insiste là-dessus militairement, ils ont franchi la ligne de défense ukrainienne. Car je reviens là-dessus, il faut savoir que de 2014 à 2022, l'Ukraine avait décidé d'installer une ligne de front en théorie infranchissable, avec des bastions, des espèces de fortins terribles, enfin, plusieurs fois la ligne Maginot, que la Russie ne pouvait pas passer. Et là, la Russie ne serait passée que s'il avait envoyé, sur la technique Verdun, des centaines de milliers d'hommes à la boucherie, pour rien du tout. Hein. Ouais. Donc il fallait donc casser ces fortins, casser ces forteresses, l'une après l'autre, hein, avec le minimum de pertes humaines, bien entendu. Mais derrière cette ligne de front qui est aujourd'hui dépassée, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que la Russie est en terrain libre. L'armée russe est en terrain libre et on ne sait pas ce qui reste de l'armée ukrainienne en déroute sur ces terrains-là. Bon. Donc effectivement, ce qui est en cours aujourd'hui, après la libération totale du Donbass, qui redevient totalement occupée par son propriétaire, la Russie est en train de petit à petit mettre les pieds sur les deux provinces voisines, celle de Zaporoïe et celle de Dniepropetrovsk. Bon. On verra pour la suite. Ça, c'est très important à souligner, parce que ça n'a pas beaucoup été dit, parce que le début de l'échec militaire de l'Ukraine, il est là. C'est-à-dire que l'Ukraine ne peut plus prétendre qu'elle complique la vie de la Russie, puisqu'il n'y a plus personne pour s'opposer à l'avancée des troupes russes. Quand vous ajoutez à ça que dans le nord, du côté de Koursk, la Russie est sur le territoire ukrainien, dans la région de Soumy, en direction de Kharkov, là encore, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que la Russie est en train de piétiner le sol, de marcher sur le sol ukrainien sans beaucoup de résistance. C'est autour de ça que doivent s'organiser les réflexions sur un éventuel accord de paix, sur cette réalité de fait. Alors on n'en est pas là, puisque du côté ukrainien on sait ça, mais on ne veut surtout pas aborder ce sujet-là, et on se contente de compliquer la vie sur l'accord qui a été signé à Istanbul sur l'échange de soldats morts. Alors vous savez que la Russie est arrivée avec ses camions pleins de corps dans des camions frigos, que les Ukrainiens n'étaient pas là, qu'ils vont peut-être venir, que si, que ça, etc. Bon, on verra. Bon, mais c'est pas un accord de paix. C'est simplement, il faut le prendre pour ce que c'est, qui est très important, tester la réalité de la volonté du gouvernement ukrainien de respecter un accord. C'est rien de plus que ça, mais c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que comment négocier un accord de paix qui a une toute autre ambition? C'est ambitieux, un accord de paix. Ça doit fonctionner pour un siècle ou plus. Quand on a affaire à des gens qui, sur une procédure aussi simple que l'échange de soldats morts ou de soldats blessés, sont même pas capables de tenir leurs paroles et leurs dates. Bon. Et donc, effectivement, oui.
C'est pour ne pas payer les indemnités familiales.
En particulier, oui, effectivement, les familles qui vont récupérer des corps, ils vont dire, mais il est mort au combat et donc j'ai droit à une pension. Bon, alors ça... fallait dire, vu le nombre de milliards états-uniens qui se sont déversés sur Kiev, ça ne devrait pas poser problème. Alors, ça pose problème parce qu'on n'a pas beaucoup dit, mais il y a aujourd'hui à Kiev, il vient d'arriver un avion, un charter entier de comptables des États-Unis qui sont en train d'aller voir dans les livres de comptes de Zelensky et de son groupe où est l'argent. Où est l'argent? Alors là, je leur souhaite bien du plaisir, mais ils sont arrivés à 50. Et ils sont là peut-être pour longtemps. Parce que je pense que la comptabilité n'est peut-être pas tout à fait là, ou qu'il y a plusieurs comptabilités, la vraie, la fausse, la demi-fausse, etc. Et donc, ils vont avoir du travail. Mais on en est là, c'est-à-dire que dans les réserves de Trump vis-à-vis de son ami Zelensky, il y a ça aussi. Hein, parce que Trump a lancé le chiffre, on se souvient, les 350 milliards. Il ne savait pas trop s'il était sûr de son coup. Mais il se doutait bien qu'il était quand même parti beaucoup d'argent. Et il ne savait pas sous quelle forme. Alors, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si des gens comme Mme Victoria Nuland, vice-ministre des Affaires étrangères des États-Unis, arrivait à Kiev avec des valises entières de dollars, c'est noté nulle part. C'est noté nulle part. Ces valises entières de dollars, elles peuvent rester à Kiev ou elles peuvent être dans les propriétés de Zelensky et de sa bande ici ou là, à Chypre, au Maroc, etc. Donc, je souhaite bien du plaisir aux 50 comptables parce qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup de choses à découvrir et peut-être beaucoup de surprises ou alors ils vont rien trouver, effectivement, de conséquent, de ferme et tout. Bon. Parce qu'un régime qui, comme le régime ukrainien, triche, vole, est corrompu. Alors tout le monde dit c'est le plus corrompu du monde. Donc on peut penser que la comptabilité est fausse d'A à Z. Donc il n'y a rien à attendre. Mais quand ils vont se rendre compte peut-être de l'ampleur du vol, hein, puisque c'est bien ça, je pense que les États-Unis auraient de quoi se fâcher. Se fâcheront-ils? Ça dépendra aussi des équilibres géopolitiques avec la Russie. Mais ils auraient de quoi. Parce qu'on ne peut pas, effectivement, passer tout ça sous silence. Et maintenant que l'enquête est commencée, il se pourrait qu'elle avance. Alors, il se pourrait qu'elle avance. On verra. On verra parce que je rajoute à ce point de vue une interview assez importante et longue du vice-ministre des Affaires étrangères russe qui s'appelle M. Ryabkov, dont on parle peu. On parle beaucoup de Sergueï Lavrov qui mérite qu'on parle de lui, mais M. Ryabkov est donc le numéro 2 et il a accordé à l'agence TASS, donc de Moscou, un interview très très long où il fait le point justement sur les rapports concrets, diplomatiques entre les États-Unis et la Russie. Et il dit « Nous avons toujours l'espoir que la nouvelle attitude de Trump se transforme en acte concret, mais aujourd'hui, il dit, et je reprends son propos, les relations entre les États-Unis et la Russie sont à des niveaux catastrophiques. Catastrophiques. Hein, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères qui dit ça. C'est-à-dire qu'on ne peut compter sur rien. On n'a rien. On avait, alors, cite un exemple, l'ambassade de Russie à Washington avait des locaux pour loger son personnel ou différents services culturels, etc., qui lui ont été volés par les États-Unis et ils demandent qu'on les leur rende. C'est la règle diplomatique de base. Bon, ils demandent à ce qu'on permette à des équipes diplomatiques renforcés, identifiés avec des diplomates, conseillers à ceci, conseillers à cela, qui soient normalement accueillis à Washington de la même façon que leurs homologues seraient accueillis à Moscou. Ça n'avance pas non plus. Donc quand M. Ryabkov dit non, les rapports entre les deux pays sont à un niveau catastrophique, il ne parle pas en l'air, il parle très concrètement. Ajoutons à ça que quand il s'agit de problèmes plus graves, vous allez dire c'est pas très grave le logement des diplomates, leur passeport diplomatique, c'est d'abord. Mais ça fait partie du type de relation qu'on entretient. Parce que si on se connaît, on peut se parler, on peut dire là, attention, tu vas faire une bêtise, attention, il vaudrait mieux pas faire ça, etc. Nous, ça nous va pas. Bon, s'il n'y a pas de rapport, si les rapports sont pourris ou inexistants, on sait plus rien, on avance dans le brouillard, comme un peu Trump qui dit rien, qui sait rien, ou qui ne sait pas, ou qui veut pas dire, enfin, on sait pas. Bon, on avance dans le brouillard. C'est un brouillard très très dangereux. Pourquoi il s'agit d'un brouillard très dangereux? Parce que vous avez bien compris que la mise en application des accords START, donc de contrôle des armements, qui a permis effectivement de photographier, ou plutôt de passer sur les écrans, les images des bombardiers sur la base russe, où ils ont été bombardés, ça fait partie d'un accord qui s'achève en février 2026. Après février 2026, il n'y a plus rien de signé entre les États-Unis et la Russie. Plus rien. tout a été détruit, tout a été annulé, etc. Par Trump en particulier, plus que par d'autres. Mais il a fait sa part de travail largement. Bon. Ça veut dire qu'il faudrait, si on veut que le monde ne soit pas trop dangereux, qu'il y ait après, ou qu'il y ait maintenant une négociation pour un nouveau traité de surveillance des armements. Autrement, c'est chacun peut faire n'importe quoi, enfin, c'est l'anarchie instituée, et donc c'est le plus fou qui risque de gagner. Alors il faut bien se rendre compte que le traité START, un traité START qui serait le START++, qui serait en vigueur à partir de février ou mars 2026, c'est des mois et des mois de négociations. Bon, ces négociations n'ont pas commencé, il n'y a même pas le personnel pour les mener, il n'y a même pas les conditions matérielles pour qu'ils s'installent à Washington ou à Moscou pour discuter dans quel local, sous quelle protection, etc. Donc vous voyez, il y a un état de dégradation des relations internationales, au moins entre ces deux pays, qui est très très important. Alors je souligne en particulier, puisque j'ai mentionné la Chine et les négociations douanières, que la Chine, prudente s'il en fut, a évité de signer quoi que ce soit avec les États-Unis en matière militaire. Et donc les États-Unis ne peuvent rien, enfin ne peuvent pas envoyer d'observation, ils n'ont rien à dire. C'est-à-dire qu'ils en sont réduits à faire des hypothèses sur les capacités nucléaires de la Chine sans pouvoir rien vérifier. Et ça, je crois, alors on parle des conflits commerciaux, il y a des conflits commerciaux à l'évidence. Je crois qu'une des sources d'inquiétude principale des militaires des États-Unis, c'est qu'ils ne savent pas grand-chose sur la capacité militaire de la Chine et que la Chine se garde bien de leur en parler. Alors la Chine fait des essais de ceci ou de cela, elle envoie des satellites, elle fait des tas de choses, elle annonce, alors on voit, si elle voit, elle construit des porte-avions, elle construit des sous-marins, ça se voit sur les photos, mais elle n'en dit rien. Donc les États-Unis sont conduits à simplement faire des hypothèses, d'où leur inquiétude. C'est pour ça que je dis, rendons-nous bien compte que l'aspect commercial qu'on met en avant, c'est facile, ils vont pas acheter ceci, on va leur vendre cela, etc., est secondaire par rapport à cette vraie frayeur militaire, qui avait été réglée par les accords, toute la série d'accords qui avaient été signés entre l'URSS et les États-Unis, qui diminuaient cette tension. Mmh. Et comme en plus il n'y avait pas concurrence économique entre l'URSS, il y a eu à un moment donné, dans les années 38-40, une puissance industrielle soviétique qui équivalait, enfin qui était très proche de celle des États-Unis, mais depuis on était loin du compte. Donc la seule inquiétude par rapport à la Russie, c'était une inquiétude militaire. Dès l'instant où on maîtrisait le rapport des forces militaires par tous ces traités, on pouvait, j'allais dire, dormir tranquille. Non, on pouvait continuer à vaquer ces petites affaires et à l'occasion faire un coup tordu à la Russie quand on la sentait un peu faible. Ce qui était exactement le cas. Voilà ce que je voulais indiquer. Je regarde tranquillement l'heure à laquelle nous sommes. Bon, point donc sur la situation ukrainienne, très très intéressant, donc du point de vue de l'avancée de l'armée russe.
Ouais.
Et l'Ukraine, manifestement, en est réduite à faire du terrorisme et elle n'a plus rien d'autre à faire parce que l'armée ukrainienne est dans un état de très grande faiblesse ou de décomposition. Alors on sait même, je pousse l'affaire jusqu'au bout, qu'il y a dans l'armée ukrainienne aujourd'hui des unités chargées d'abattre en tirant dans le dos les soldats qui désertent. Donc dans chaque unité combattante, il y en a une petite partie qui est chargée de tuer les autres si jamais ils décident d'arrêter de combattre. Voilà. Bon. Donc ça en dit assez long sur l'état de dégradation. Complètement dégradée.
Ouais.
Enfin, dernière chose qui est évoquée aussi par Ryabkov, et je vais m'arrêter là-dessus, sur cet aspect militaire, mais c'est bien d'aborder ces sujets parce qu'ils sont tellement peu abordés par nos médias qu'on fait comme s'il ne se passait rien. Mais ce n'est pas vrai qu'il ne se passait rien. Il y a en particulier, il y a eu en mai de cette année, donc il y a un mois, une signature d'un accord entre la Chine et la Russie pour éviter qu'il y ait une guerre dans l'espace. C'est-à-dire pour éviter le vieux rêve de Reagan, la guerre des étoiles, qui est quelque part perché au-dessus de la stratosphère à des centaines de kilomètres, et des bombes atomiques qui circulent et qu'à un moment donné, on peut faire éclater sur un territoire. Bon. Alors on sait que ça fait partie des ambitions qui sont aujourd'hui affichées par Trump et ses équipes, c'est-à-dire voilà, ce qu'ils appellent le Global Dome, le dôme global. c'est-à-dire une protection, mais qui en même temps permet de mettre en dehors de la stratosphère des armes atomiques qui pourraient tomber sur n'importe qui au moment des sites. Bon, alors la Chine et la Russie ont vu venir l'obstacle et ils ont donc mis au point un projet de traité sur la non-militarisation de l'espace qu'ils ont proposé au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale de l'ONU, qui a déjà été signé par une quarantaine de pays, et puis ils attendent qu'il y en ait d'autres qui suivent, parce que l'humanité, si elle met ses ressources, son énergie à ça, va encore vers une période de trouble encore plus grande que celle de laquelle nous sortons. Donc, ouais, ils regardent l'avenir et ils font ce qu'il vaut pas à pas pour éviter que l'avenir dégénère. Alors, on peut imaginer, alors, il y a aux États-Unis, j'ai lu quelques textes là-dessus, des gens qui disent, de toute façon, ce dôme global, comme ils disent, ça vaudra celui des Israéliens, ça sera, un jour ou l'autre, ça sera troué. Ça. Mais toujours est-il que le complexe militaro-industriel états-unien voit arriver ça avec gourmandise en disant, s'il est question de fabriquer un dôme de protection, avec des bombes atomiques qui circulent en orbite, nous, on va avoir beaucoup, beaucoup d'argent pour mettre ça au point. Même si ça ne marche pas, on aura encore fait marcher la mécanique du complexe militaro-industriel. Dernier aspect, mais c'est important parce que ça constitue un peu la toile de fond. D'une part, vous voyez, la Chine et la Russie, sur ces aspects-là, se tombent d'accord et ont des actions concrètes communes. Et puis, la machine américaine tourne à sa vitesse folle, sans contrôle, aux mains, en gros, des fabricants de canons. Bien. Je regarde où on en est. Alors, je voulais faire un tour. On va passer par le Moyen-Orient. Ça mérite qu'on y aille. Alors, plusieurs choses. Une bonne nouvelle. L'Égypte et l'Iran sont en train de renouer des relations diplomatiques étroites. Ouais. Alors ça, c'est très très important, parce qu'il s'agit, par rapport à des monarques qui n'ont pas de contrôle démocratique, il s'agit quand même, alors on en sait les limites, il s'agit d'un côté de la République islamique, et l'Égypte, c'est une république. C'est-à-dire, il y a des élections, on peut changer de président, on peut changer de gouvernement, il y a des élections. Et puis, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup plus de monde en Égypte qu'en Arabie Saoudite, dans les Émirats Arabes Unis, etc. On a affaire au poids lourd du monde arabe, qui est effectivement l'Égypte. Personne ne peut le contester. Jusqu'à présent, l'Égypte était un peu coincée, j'allais dire embarrassée par rapport à son traité de paix avec Israël, qui fait qu'il ne pouvait pas intervenir comme il aurait pu le faire pour aider les Palestiniens, en particulier ceux de Gaza. On sait que l'Égypte a fait tout ce qu'elle a pu pour éviter que les Palestiniens de Gaza sortent de chez eux, même les malades qui avaient besoin d'être soignés. Bon. Alors, il y a eu quelques sorties, on l'a su, ça a un peu filtré ici et là, mais en gros, l'Égypte n'a pas été très très collaboratrice avec les Palestiniens. Le fait qu'ils se mettent à parler, à entretenir, enfin à élaborer de nouvelles relations avec l'Iran montre que quelque chose est en train de tourner. Alors pourquoi ? Simplement parce que l'arrivée d'Israël en Syrie, la campagne de l'Israël contre le Liban, fait que aussi bien l'Égypte que l'Iran ont compris qu'Israël, il fallait l'arrêter quelque part. Et donc il fallait se mettre d'accord pour, du côté nord comme du côté sud, montrer qu'Israël ne pouvait pas faire n'importe quoi tout le temps. Ça, c'est une première action qui est positive. Pour le reste, alors pour la situation à Gaza, pas beaucoup de changements. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les Gazaouis donc, sont cantonnés de plus en plus, vont être cantonnés dans une série de sous-enclaves de Gaza, 3 ou 4 sous-enclaves, avec l'armée israélienne entre les sous-enclaves, c'est-à-dire qu'on a affaire à un processus, je l'ai dit, qui ressemble à celui de la Cisjordanie. On a des Israéliens partout, et puis on a une espèce de camp où on laisse les Gazaouis survivre, enfin ceux qui peuvent survivre, parce qu'ils sont mal nourris. Et puis, on se retrouve dans une situation qui est celle de la Cisjordanie, c'est-à-dire à partir du moment où l'armée israélienne et les colons qui sont avec décident de casser un village de tentes où sont les réfugiés gazaouis, il n'y a pas grand-chose qui peut les empêcher de le faire, si ce n'est une intervention internationale qui n'a évidemment pas lieu.
Et chaque jour, il y a des morts.
Et chaque jour, il y a des morts et en quantité. Ça, c'est le premier aspect de la situation. Deuxième aspect de la situation, Israël est tel qu'en lui-même, puisque vous avez tous suivi, parce que ça a été très médiatisé, l'arrivée du voilier, je dis le voilier de Rima Hassan et de Greta Thunberg, parce qu'on en a fait des icônes de la lutte. En fait, il était évident pour qui a suivi l'histoire d'Israël et ses rapports avec ce type de navire qui apporte de l'aide humanitaire, sous une forme politique, c'est-à-dire c'est propagandiste, c'est pas les quelques tonnes de marchandises du voilier, c'est le fait de dire « je suis arrivé jusqu'à Gaza et les Israéliens ne m'ont pas empêché ». Ça n'est jamais arrivé, Et ça n'est pas arrivé cette fois-ci non plus. C'est-à-dire que les Israéliens se sont payés le luxe d'aller en dehors des eaux territoriales, arraisonner le bateau et le prendre en remorque pour l'amener dans un port, je crois que c'est Ashdod qui est installé. Ouais. Bon, c'est tout. Hein. Donc Israël est tel qu'en lui-même, et personne n'a protesté là contre. Hein. Même si Mme Rima Hassan est citoyenne française, députée européenne, je n'ai pas vu ni l'Élysée, ni le Quai d'Orsay protester en disant mauvais traitement et arraisonnement d'un navire.
Il y a plusieurs Français quand même.
Oui, il y a un marin, il y a un des marins, il y a un docteur, le médecin du bord. Le médecin du bord est un Marseillais. De l'hôpital de la Timone, il y a plusieurs. Mais ça n'a pas ému outre mesure la diplomatie française. Alors, ils ont dit qu'on allait essayer de les rapatrier, ça bien sûr, parce qu'Israël ne va pas les garder. Mais il faudra les demander, un genou à terre, s'il vous plaît, monsieur Netanyahou, rendez-nous nos citoyens. On en est là. S'il vous plaît, monsieur Netanyahou, rendez-nous, que vous avez volé sur les mers internationales en violation de toutes les règles de droit international sur la mer. Voilà ce que c'est la position de la France. Alors quand après monsieur Macron se met à dire il faudrait qu'on reconnaisse l'État palestinien, alors je vous arrête tout de suite, il va y avoir une conférence la semaine prochaine, et d'ores et déjà une conférence de l'OTAN. La Grande-Bretagne et la France ont dit qu'il n'était pas question de reconnaître l'État palestinien. Qu'ils avaient l'un et l'autre dit qu'ils allaient le faire, mais qu'au fond, non, ça n'aurait pas lieu. Pourquoi ça n'aurait pas lieu? Parce que les États-Unis ont dit « Niet, vous ne ferez pas ça tant que je ne vous dirai pas de le faire ». C'est tout, point. Hein. Alors, on nous raconte des tas d'histoires sur la France va reconnaître et tout. Ça ne tient pas debout, ça va être démenti à la fin de cette semaine même. Voilà.
Et on envoie des armements entre-temps.
Et en plus, voilà, on envoie, on continue à envoyer du matériel.
Bravo les dockers de Marseille.
Voilà, on envoie du matériel, vous avez tous suivi ça. Heureusement, c'est une nouvelle elle a fait le tour du monde. Je peux vous dire, il y en avait dans la presse du monde entier. Et puis comme les dockers de Gênes ont fait la même attitude depuis longtemps, effectivement, ça marque, c'est-à-dire c'est un début de résistance du mouvement ouvrier. Alors c'est assez facile, je ne minimise pas. Il y a des endroits où vous pouvez être contre l'agression d'Israël sur les Palestiniens, vous ne pouvez rien faire. Hein. Si vous travaillez, je ne sais pas, chez n'importe qui, vous n'avez pas de produits israéliens qui passent entre vos mains, votre entreprise n'a pas de rapport avec Israël, vous pouvez protester. Mais là, c'est un endroit où ça a de l'effet. Et c'est pour ça d'ailleurs que les dockers, les syndicats de dockers s'en servent, ils disent ça a de l'effet. Bloquer un conteneur, même si c'est qu'une dizaine de tonnes de matériel, ça a de l'effet. Alors, 10 tonnes de matériel, c'est rien dans la guerre, c'est rien du tout.
Non, bien sûr. Hein.
Mais le symbole politique est très très fort, et c'est tant mieux qu'il y ait ce symbole politique. Et bravo pour qui il ait lieu. Donc,
CGM qui devait transporter.
Alors, en plus, j'ai vu une photo d'un bateau. Ouais. Apparemment, c'était pas CGM. Ils avaient affrété un vieux cargo un peu abîmé pour faire ça, pour passer inaperçu. Parce qu'il faut savoir, j'en profite pour expliquer, Israël a une compagnie de navigation qu'on appelle l'Azim. Mais pratiquement, l'Azim, surtout que quand il faut traverser la mer Rouge, en particulier, mais pas que, essaye de ne plus faire rien sous son pavillon à elle et sous-traite une partie de son commerce. Quitte à elle à naviguer entre l'Argentine et le Brésil et tout, à des endroits où elle risque rien. Mais en Méditerranée, ils sont très très prudents et donc ils sous-traitent les transports dont ils étaient les maîtres, y compris à destination d'Israël. Donc la photo que j'ai vue à propos de ce conteneur, c'est une photo d'un vieux bateau, un petit porte-conteneur qui avait été choisi pour les besoins de la cause. Voilà pour les armements. Donc, et sur la position de la France. Alors, quand Macron, alors quelqu'un lui a dit, mais concrètement, quelles sont les conditions pour ouvrir? Ah ben, il dit, c'est simple. Alors, j'allais dire, ça m'a fait penser aux bourgeois de Calais. Le Hamas dépose les armes, hein, se présente les mains nues, on les met en prison tous, et on négocie avec ceux qui ne sont pas en prison. Ben, bravo. donc, il prend le Hamas pour ce qu'il n'est pas, parce qu'ils ne sont pas, ils sont pas idiots au point d'accepter ça. Hein. Et ce qu'on sait, par ailleurs, ça, c'est des aspects positifs, c'est que le Hamas se renforce, tient compte de la nouvelle situation sur le terrain à Gaza, et que donc, il a très bien vu venir l'opération qui est en cours, et qu'elle ne va pas se passer si bien que les Israéliens le croient. Ça, c'est un autre aspect des choses dont on reparlera.
Le Hamas, c'est des Palestiniens.
Mais le Hamas, c'est des Palestiniens, etc. Alors, voilà. Parce que même s'ils disent qu'un bébé de 2 ans est un Hamas futur, quand il est tué et passé par la mitraille, il n'est pas au Hamas. Hein. Et même à 10 ans, il n'est pas au Hamas. Bon, donc, il pourra y être parce qu'il aura vu toute sa famille mourir et qu'il aura un désir de vengeance compréhensible. je le dis comme ça, un désir de vengeance compréhensible. Je ne fais pas l'apologie de la vengeance. Mais il y a des moments quand vous allez mourir toute votre famille dans des conditions épouvantables par des gens qui n'ont ni foi ni loi en l'occurrence, vous pouvez avoir un sentiment de vengeance. C'est tout. C'est pas inhumain. C'est même très très humain. Ah. Alors, j'en revenais donc à ces rapports entre l'Iran et l'Égypte, qui sont un élément tout à fait positif de la situation. Et puis, une autre donnée, alors, dont on ne parlera pas beaucoup, qui est la suivante concernant, vous savez qu'il y a toujours des négociations qui sont en cours entre l'Iran et les États-Unis sur la fameuse bombe atomique iranienne. Alors, on a affaire à une négociation stupide, puisque les États-Unis ne veulent pas de bombe nucléaire iranienne, et les Iraniens non plus.
Non plus.
Non plus. Alors, pourquoi ils ne signent rien? Pourquoi ils ne signent rien? Parce qu'en fait, les États-Unis voudraient interdire à l'Iran toute capacité d'utiliser des produits radioactifs, ce qui n'exige d'aucun autre pays du monde. Parce que la radioactivité, ça sert dans des tas d'activités scientifiques, médicales, hospitalières, etc. Tout ce qu'on veut. Ouais, et pour la production d'électricité. Bon, alors ça, c'est très facile, mais ils vont beaucoup trop loin. Donc ils voudraient que, en fait, c'est comme l'histoire des bourgeois de Calais. Vous capitulez surtout et vous êtes nos amis. Et puis le lendemain, on vous bombarde en plus, vous verrez bien ce qui vous arrive. Donc ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas alors que sur l'objectif, l'Iran a toujours été clair, nous ne voulons pas la bombe atomique. Les États-Unis, au début, n'exigeaient que ça. Vous n'aurez pas la bombe atomique. On ne veut pas l'avoir, vous n'avez pas compris. Mettez-vous ça dans la tête. Nous ne voulons pas de bombe atomique. C'est tout. L'élément nouveau, et là il est très très intéressant, l'élément nouveau, c'est que l'Iran annonce qu'elle a mis la main sur tous les secrets de l'arme nucléaire et du nucléaire en Israël, c'est-à-dire qu'ils sont à la tête désormais d'un paquet énorme de documents qu'il va en falloir des jours et des jours pour décortiquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je simplifie pour résumer l'équilibre, l'Iran aujourd'hui sait autant sur le nucléaire israélien que les Israéliens savent sur le nucléaire iranien. Et donc là, on est complètement sorti de la situation où les Israéliens savaient tout, pouvaient bombarder une installation iranienne et tout casser. C'est ce qu'ils ont fait à certaines époques. Et maintenant, c'est plus possible parce que dans la mesure où l'Iran sait aussi ce qu'il y a et que l'Iran a montré, puisqu'ils ont fait deux expérimentations ces derniers mois de l'année 2024, l'Iran sait très bien où se placent toutes les installations, où sont stockées les bombes, où sont les avions qui les transportent, sur quel sous-marin telle arme nucléaire a été entreposée et tout. Ça équilibre beaucoup le jeu, c'est-à-dire chacun sait aussi bien que l'autre ce que l'adversaire a.
Et toutes les usines d'armement.
Et toutes les usines, tout ce qui va avec.
Israël, oui. Voilà. Ils ont des informations incroyables.
Voilà. Et ça, c'est paru, je l'ai vu aussi, on l'a vu dans le Mayadine, ouais. c'est tout à fait confirmé, c'est-à-dire on a une situation qui est totalement modifiée, qui fait que la position de dire l'Iran doit signer, ça suffit, etc., c'est terminé, on ne peut plus tenir cette position-là, et je pense que l'état-major états-unien va devoir s'en accommoder, et ce n'est pas plus mal, puisque au fond, tout le monde doit être content, il n'y a pas d'armes nucléaires, hein. Donc le traité de non-prolifération auquel les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'URSS à l'époque et la Chine sont parties prenantes, le traité de non-prolifération de l'arme nucléaire, il est respecté. Donc quoi demander d'autre? Alors ça serait d'ailleurs, reprenons ça d'un peu plus loin, ça serait d'ailleurs quand même assez cocasse que sur l'Iran on n'accepte rien alors qu'on a laissé le Pakistan avoir la bombe atomique, l'Inde avoir l'arme atomique, Israël avoir la bombe atomique, on l'a laissé faire, même on l'a encouragé. Tout ça, ça compte pas. Non, il n'y a que eux qui posent problème. Il n'y a que l'arme nucléaire iranienne qui pose problème. Le reste, tant pis, c'est comme ça. Et alors, coup de chapeau, au passage, à l'Afrique du Sud, qui, elle, a renoncé à son arme nucléaire, qui a été exemplaire de ce point de vue-là. C'est l'avantage de la politique de Mandela et de la fin de l'apartheid. En gros, c'est ce que je voulais dire pour résumer sur la question du Moyen-Orient. Mais vous voyez que les choses, petit à petit, bougent. Alors, on a toujours la même bêtise, la bêtise brutale, bovine, j'allais dire, de Netanyahou et de son équipe. Mais en même temps, des éléments de la situation qui se transforment avec, malheureusement, ce qu'on dit depuis le début, c'est chaque semaine qui passe, c'est 1000 morts en plus sur le sol de Gaza. Sans compter les morts dans la Cisjordanie, puisqu'il y en a aussi. Ceci étant, bon, les équilibres politiques bougent un petit peu, et ça amène à parler un peu plus d'Israël, parce qu'on a appris aussi, ces derniers temps, qu'Israël avait envoyé tous ses missiles patriotes à Zelensky, tenez-vous bien. Alors le missile Patriot, c'est le fameux missile états-unien qui, paraît-il, est une protection absolue qui détruit tout drone ou tout missile qui arrive depuis chez l'adversaire. Israël n'en avait pas besoin, vous n'avez pas besoin de missiles Patriot contre les Gazaouis, ça sert à rien, ils n'ont pas de missiles, vous avez de quoi les tuer de 50 autres façons. Par contre, ils ont envoyé ça à Zelensky. Zelensky a aujourd'hui, l'Ukraine a aujourd'hui des missiles Patriot, donc qui ont été détournés de leur destination. Alors, on peut penser, comme les États-Unis ont laissé faire, sont assez complices. Effectivement, les missiles patriotes, ça ne servait à rien. Ils n'allaient pas les tirer sur l'Égypte, ils n'allaient pas les tirer sur les Palestiniens. Donc, ça sert plus à Zelensky dans ses petites affaires, dans son coin. C'est intéressant à savoir parce que ça met en place, je ne l'ai pas dit tout à l'heure à propos de l'intervention britannique, mais il faut savoir que la guerre en Ukraine aujourd'hui, il y a un acteur, la Grande-Bretagne, ça c'est les propos de la prof que je reprends tout à fait à mon crédit. Et puis il y a aussi Israël qui sans arrêt intervient avec des conseillers, avec du matériel fourni, avec probablement des gens sur place qui aident, malgré ils ont de très bonnes connaissances en matière de drones, de contrôle de l'information, etc. Donc on a de plus en plus, ça c'est une idée qui prend forme petit à petit, on a un camp de la contre-révolution qui est en train de bien s'organiser. Alors, dont les États-Unis pourraient être à la tête, mais ce n'est pas sûr, du fait des ambiguïtés de Trump. Mais quand on ajoute donc la Grande-Bretagne, non. Israël, le fou furieux d'Argentine et quelques autres, on a affaire effectivement à un groupe de contre-révolutionnaires organisés qui pensent avoir la protection des États-Unis du patron, qui l'ont probablement dans certains lieux de pouvoir aux États-Unis, mais pas partout, mais qui comptent bien finalement en finir avec toutes les idées bizarres du sir Donald Trump, qui parle de paix à tort et à travers, et qui en fait n'avance pas dans ce sens-là. Donc ce qui est en train de se faire, c'est que ce camp des durs, ce camp des contre-révolutionnaires, cette international d'extrême droite, on pourrait dire, est en train de plier Trump pour qu'il arrête d'avoir des idées bizarres et qu'il devienne un président des États-Unis comme les autres. Hein. Parce qu'il a eu cette espèce de velléité de faire œuvre originale, et puis manifestement, il n'y arrive pas et on ne le laisse pas faire. Voilà. Sa sincérité, je ne me prononcerai pas, j'en sais rien. Non, on ne peut pas le savoir. Hein. Mais toujours est-il qu'il a dérangé tous ces gens-là, toute cette extrême droite mondiale, il les a dérangés dans leur espèce de chemin qui était tout tracé. On va casser les Chinois, on va casser les Russes, on va casser tout ce qu'on veut. On est les maîtres du monde. Et il les a un peu troublés. Et donc, ils vont lui faire payer probablement ce trouble-là. Est-ce que ça se finira comme Kennedy ? Je ne l'exclus pas, on est aux États-Unis. Est-ce que ça se finira avec un coup réussi comme celui auquel il a échappé au mois d'août dernier pendant la campagne ? Je ne l'exclus pas non plus, parce que si vraiment il montre beaucoup de mauvaise volonté à passer par les fourches caudines du clan de la guerre, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, peut-être ils diront maintenant, il nous gêne, hein, et ça suffit, on l'a assez vu. Bon. Après, on a J.D. Vance, c'est l'homme de la situation. Lui, il ira partout où il faudra qu'on aille et ça fera, ça, le sang coulera. Voilà. Ah ouais. C'est ça la perspective. Alors, peut-être ça va tenir jusqu'aux élections de l'année prochaine, où il perd, probablement Trump va perdre, enfin il va perdre sa majorité au Congrès, il y a de bonnes chances, parce que déjà, même chez les Républicains, on se pose des questions. Il y a même des élus républicains. Enfin, il faut savoir aussi, là, bon, je parle de pétaudière aux États-Unis, vous avez un sénateur républicain qui s'appelle M. Lindsey Graham, qui vient à Kiev et qui donne des ordres à M. Zelensky en disant « faites ceci, faites cela ». Mais depuis quand un sénateur tout seul, fût-il républicain, vient donner des ordres à un pays qui est en belligérance ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et on ne lui interdit pas de circuler. Non, il vient, il passe à la télévision, il passe sur CNN, etc. Et là, la parole du pouvoir des États-Unis, c'est M. Lindsey Graham, un sénateur sur 100 qui fait la politique des États-Unis. Mais dans quel pays on est ? Bon, toutes ces questions sont sur le papier et elles méritent qu'on y regarde de plus près. Alors, on va faire une petite transition, on va parler un peu plus d'Afrique. Donc on va passer la petite chanson, que vous n'avez jamais entendue j'imagine, l'hymne de l'AES, s'il passe. l'agence des États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, à savoir donc Niger, Burkina Faso et Mali, qui ont donc depuis quelques jours un hymne commun. Alors, c'est deux pays séparés, mais ils ont un accord militaire, ils ont des accords économiques et tout, et ils ont désormais un hymne commun qu'on va écouter, si ça passe.
Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur d'un temps nouveau qui annonce liberté et progrès. Sous l'étendard du combat épique, peuple de la RS, intrépide et souverain, par le verbe et par les armes, brise les chaînes qui te tiennent. Richesse te revient et que scintille l'esprit fertile de l'Afrique. Soldats le sont tous déterminés, résilients et unis pour que. Hommage au peuple du Sahel. Porteur d'un temps nouveau qui annonce liberté et progrès. Sous l'étendard du combat épique, peuple de la RS, intrépide et souverain, par le verbe et par les armes, brise les chaînes qui te tiennent. Pour que tes richesses te reviennent et que scintille l'esprit fertile de l'Afrique.
Ben voilà, c'est simple et de bon goût, j'allais dire. Voilà, ils disent bien ce qu'il fallait qu'ils disent, hein, avec joie, de très jolies voix, très fraîches, c'est très bien. Et nous voulons être maîtres chez nous. Alors à ce moment, je vais faire une petite incursion, je vais faire plaisir à Habib. Parce que vous savez que le mois prochain, là, on est toujours entre deux débarquements, enfin entre deux commémorations, celui de juin en Normandie et celui d'août en Provence. Bon. Il se trouve que l'an dernier, le débarquement en Provence a été honoré de la présence de M. Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'il est allé dire ? Et qu'est-ce qu'il a osé aller dire ? Et avec qui il est allé le dire ? Il a été accompagné d'un chef d'État qui s'appelle M. Paul Biya, qui est le président du Cameroun. Bon. Or, il faut savoir, j'insiste là-dessus et je souligne lourdement que les armées françaises de la France, des forces françaises libres, c'est-à-dire les armées donc recrutées dans un certain nombre de pays, dont la Syrie et dans d'autres pays de l'Empire français, qui ont libéré la Provence et libéré en particulier Marseille, étaient toutes des soldats arabes. Je souligne, toutes des soldats arabes. Il n'y avait pas un Camerounais, il n'y avait pas un Ivoirien. C'est pas qu'ils voulaient pas y être, mais on avait recruté ces troupes-là, qui étaient des troupes qui avaient été débarquées en Italie pour faire la campagne d'Italie, la libération de l'Italie, qui avaient été réembarquées sur des bateaux à Naples et qui étaient venues débarquer en Provence le 15 août 1944. Voilà. Alors, quand M. Macron fait célébrer le débarquement des forces françaises libres en donnant toute la place aux Africains de l'Afrique dite subsaharienne, il commet une erreur historique. Alors, c'est pas par hasard qu'il la commet, parce que, et comme ça va continuer, quand vous avez un gouvernement dont M. Retailleau et M. Darmanin sont des gens qui professent à longueur de journée l'islamophobie et l'anti-arabisme, vous ne pouvez pas aller dire que Marseille a été libérée par des Arabes. C'est pas possible. Et pourtant, c'est la stricte vérité. Marseille a été libérée par des Arabes. Voilà. C'est comme ça. Il y avait dans ces troupes-là quelques 150 000 Algériens. Il y avait aussi des Marocains, il y avait aussi des Tunisiens. Ouais. Mais c'était des Arabes. Il n'y avait pas de troupes d'Afrique subsaharienne. Il n'y en avait pas. Bon. Elles étaient dans d'autres endroits, certes, mais il n'y en avait pas. Bon. Donc, cette manipulation historique est honteuse et permet, via ce gouvernement et à ces deux ministres que je vise particulièrement, puisque ce sont les deux porte-parole de la campagne arabophobe, islamophobe, etc., de dire « la France a été libérée par des Arabes ». Mon Dieu ! Et oui, pour le reste, vous savez qu'en Normandie, il n'y avait pas beaucoup de Français. J'en ai parlé dans une autre émission, et c'était un choix des Américains. Il fallait pas... Bon. Et donc, en fait, c'est ça la réalité. Alors, que ça fasse souffrir notre ego national, peut-être bien, mais reconnaissons au moins ce qu'ils ont fait pour nous. et reconnaissons en plus, pensons que nous n'avons pas été très reconnaissants envers les Algériens d'avoir fait ça, parce qu'après on leur a fait Sétif, etc. Bon, et la guerre d'Algérie en prime. Bon. Donc comme reconnaissance, c'est bien maigre. Alors qu'on en rajoute maintenant à cette non-reconnaissance de l'implication par le sang des Algériens pour défendre la République, pour libérer la République française, et que maintenant on les présente comme les ennemis de la République française aujourd'hui, c'est un peu fort de café. Allez, bon. Donc je voulais le rappeler, et puis je pense que ça te touche, oh, toi, oui. Rabbi, dont le père,
façon,
dont ton père
Notre-Dame
faisait...
Notre-Dame de Marseille a été libérée par des Algériens.
Mais exactement, exactement. Et les troupes du général de Bonsabert, alors effectivement, il y avait un général français de Bonsabert, quand ils ont descendu le boulevard de la Libération, ils étaient à la tête de Goumier, de Tabor, c'est tout. Donc des troupes arabes, disons-le, et pas autre chose. Bon. Ça, on veut l'oublier. Ben, on ne peut pas l'oublier. Alors, qu'il y ait des gens qui ne trouvent pas ça bien, il ne faut pas le dire. Oui, on ne peut pas le dire, on peut l'oublier. Mais quand M. Emmanuel Macron mystifie, parce que ce n'est pas simplement oublier, là, il mystifie. L'an dernier, il n'est pas revenu, enfin, je ne sais pas s'il va revenir cette année le 15 août. L'an dernier, il a mystifié. Il a fait croire à la population du monde entier, en venant sur place et en serrant la main de M. Paul Biya et d'un certain nombre d'anciens combattants d'Afrique subsaharienne, que c'était ces troupes-là qui avaient libéré la France. Ce n'est pas vrai. C'est simplement pas vrai. Donc c'est une mystification macronienne, une de plus.
De toute façon, ces ministres, même Macron, qui font actuellement de l'islamophobie, ils ont le résultat.
Mais bien
regardez
sûr.
Ce qui se passe actuellement. Beaucoup de musulmans qui se font tuer, des mosquées qui sont...
Exactement. Et après, alors après, on a une marche blanche, parce qu'effectivement, il y a des assassinats gratuits qui se... Voilà ce à quoi. Alors, le mensonge initial, il est de Macron. Hein, il est amplifié par deux des ministres de Bayrou. Et voilà le travail. Voilà le travail.
Exactement. Hein.
Donc on a semé la haine, on récolte la haine, bravo. Et après on va se dire, ah mais le RN est près du pouvoir, bien sûr on fait sa politique. Alors souvenez-vous quand même, réfléchissez deux secondes, qu'on préfère l'original à la copie. Tant qu'à avoir des fachos au gouvernement, on préfère que ce soit que des fachos. Là, Bayrou joue entre deux eaux, il est un peu centre, un peu n'importe où, hein, mais la politique de ces deux ministres-là en particulier, et personne ne les désapprouve, et la politique de M. Jean-Noël Barrot y ressemble beaucoup, parce qu'elle ne va pas dans un sens différent, c'est ces trois ministres de trop.
Ça a engendré des problèmes avec l'Algérie. Hein.
Mais bien entendu, bien entendu. Voilà, alors j'en étais à ce petit, c'est pas un détour africain, pour parler d'un sujet dont on parle pas beaucoup, c'est l'activité d'Israël en Afrique.
Ah, ça c'est intéressant.
Parce qu'il sort quand même, enfin en cherchant, on arrive à trouver qu'effectivement, Israël a une politique très très active en Afrique. Alors cette politique a été un peu contrecarrée par la plainte de l'Afrique du Sud contre la Cour internationale de justice. Mais il faut savoir que si cette activité a été contrecarrée par l'initiative de l'Afrique du Sud, c'est que précisément Israël avait joué un rôle très très important dans le soutien au régime d'apartheid. Donc, en les armant, en les conseillant, etc., hein, Israël était pour l'apartheid, hein, puisqu'au fond, ils voulaient fabriquer, heureusement ils ont échoué, ils voulaient fabriquer en Afrique du Sud une situation à l'israélienne, avec des Palestiniens bon, qui seraient en fait des Noirs, des Zoulous, etc., hein, et des colons qui seraient une partie des colons anglais et une partie des colons néerlandais. C'était ça. Ils reproduisaient à une échelle très largement élargie, dans un territoire immensément riche à la différence du leur. Parce que c'est ça le problème des Israéliens, c'est qu'ils sont sur un territoire très très pauvre en matière de ressources naturelles, etc. Ils sont en train toujours de chercher le moindre mètre cube d'eau partout où ils peuvent, mais il n'y a pas grand-chose sur le territoire d'Israël. Bon. Donc là, c'était le bonheur pour eux. L'apartheid, c'était Israël réussi. Et puis une réussite pour les siècles des siècles. Eh bien, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché parce que les peuples d'Afrique ne se sont pas finalement laissés faire et que donc Israël a été rejeté à l'extérieur de son continent africain. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'il a perdu cette bataille-là qu'il ne continue pas à la mener. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Israël a des ambassades dans 43 pays d'Afrique.
Afrique, ouais.
43 pays d'Afrique. Pour faire quoi ? Eh bien, pour même chose, surveiller, voir si ce pays est plus pro-américain ou plus pro-russe ou plus pro-chinois, compter les points. Surveiller, parce que c'est très très important aussi dans la politique israélienne, le commerce mondial du diamant. C'est très intéressant.
Vous oubliez le veau d'or.
Voilà. Et oui, c'est très important, c'est le commerce international du diamant. Parce que dès l'instant où le commerce international du diamant est entre les mains d'une société sud-africaine, mais qui ne rend plus de compte, qui s'appelle la De Beers, qui ne rend plus de compte à Israël, tout la chaîne, le réseau des diamantaires israéliens et sionistes, c'est une richesse en moins pour lui. Or, il se trouve qu'il y a des diamants en Afrique, et on sait, alors, le diamant, pourquoi c'est... Le diamant vaut cher, parce qu'il est rare. Mais le diamant est aussi un produit de guerre civile. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi c'est un produit de guerre civile. Eh bien, ça remonte à mai 68 en France. Pour ça, ça vous parlera. À un certain moment des événements de mai 68, bon, il y a les étudiants qui sont en grève, on dit, bon, les étudiants se fâchent un peu, ça fait partie, ils sont jeunes, etc., ils ont le sang chaud. Et puis, à un moment donné, il y a 10 millions de grévistes en France. Ah, et là, il y a certains quartiers, on dit, il y a 10 millions de grévistes, à la demande de la CGT, avec le Parti communiste, etc. C'est inquiétant. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on ne charge pas devant la maison la voiture avec des tas de valises et tout, ça se voit. On va acheter des diamants, on a les moyens, on en met plein ses poches. Hein. Alors, imagine, ça a l'air de rien, vous prenez un costume bien fait d'un bon tailleur, vous remplissez les poches de diamants, vous arrivez à la frontière suisse avec votre passeport en règle, et c'est terminé, vous êtes riche en Suisse. Ça s'est fait à Marseille, je peux en témoigner, enfin, je ne sais pas dans le coup, mais on m'a raconté après. C'est-à-dire, le diamant est un outil de survie de classe fortunée en péril qui permet de se déplacer en emportant pratiquement la caisse sans que ça se voit. C'est d'une discrétion totale. Et vous pouvez avoir dans vos poches des millions d'euros. Hein. C'est considérable. Regardez, au prix du carat.
Bon. Ah oui.
Bon, donc le commerce du diamant est un sujet d'intérêt permanent pour les sionistes. Hein, puisque donc l'Afrique du Sud, il y en avait, mais maintenant c'est contrôlé par une boîte d'Afrique du Sud, qui s'appelle la De Beers, donc c'est plus les Israéliens. Et donc chaque fois qu'ils peuvent mettre le pied dans un pays où il y a du diamant, ils s'installent, voir s'ils peuvent mettre le nez dessus. Et donc l'intervention d'Israël dans la politique africaine, elle est permanente sur ces bases-là. S'assurer une ressource en diamant en particulier, en or à l'occasion, et ça explique qu'Israël intervient dans les conflits interethniques et dans les départages d'États qui ont lieu sur le continent africain. Je rappelle, ça a été dit, mais il faudrait dire, que la sécession du Soudan du Sud, c'est une opération typiquement sioniste menée par les Israéliens pour séparer un sud chrétien, animiste et tout, enfin un sud non musulman, d'un Soudan musulman qui avait la mauvaise idée de soutenir les Palestiniens. Ça a coûté au Soudan la perte d'un quart de son territoire.
Ça,
c'est une opération typiquement israélienne. Bon. Les relations entre Israël et le Rwanda de M. Kagame sont aussi extrêmement étroites. Israël s'intéresse beaucoup au Congo, parce que là aussi, il y a du diamant, il y a de l'or, il y a aussi du cuivre, etc. Donc l'activité diplomatico-politique d'Israël est constante sur le territoire africain. C'est pas pour rien qu'il y a 43 ambassades. Pour faire quoi, 43 ambassades? C'est parce qu'ils veulent toujours être là, prêts à faire quelque chose qui va dans le sens de leurs intérêts. Alors, je cite aujourd'hui les pays où ils sont le plus installés, le mieux installés, ça va surprendre certains. Un des pays où ils sont le mieux installés, c'est l'Angola. Pourquoi l'Angola? L'Angola, le régime est issu d'une longue lutte de libération nationale, mais ce n'est plus les mêmes équipes qui sont au pouvoir. Et l'Angola est en fait la force militaire la plus importante dans le sud du continent africain. Et l'Angola sert un peu de vigie ou de vigilance israélienne par rapport au Congo. Le Congo, dont certains bons esprits aimeraient bien qu'il éclate en petits morceaux pour que chacun ait le sien. Hein. Kagame, le Rwanda voudrait le sien, d'autres voudraient le leur, l'Ouganda aussi, chacun en prendra un petit bout, on n'en parlerait plus. Bon. Il y a tout ça. Hein. Donc le Congo, avec son immense trésor, l'Angola, qui est un ami, le Nigeria, qui fait partie des amis, et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un ami très sûr. Alors pourquoi très sûr? Parce que, comme c'est aujourd'hui pratiquement un des derniers pays africains qui obéit à la diplomatie française, de moins en moins, mais au moins, bon, il faut que Israël soit là pour bien installer ses pions, au cas où ce serait... Alors, si c'est les États-Unis qui prennent carrément la place de la France, ce qui est en train de se faire, en gros, en Côte d'Ivoire, Israël leur servira d'agent sur place. C'est-à-dire, ils ne vont pas envoyer des gens. Ils vont, d'autant moins, alors je vais vous citer un incident, un petit événement qui a bien montré les limites de leur intervention. Ils ont envoyé, alors vous savez qu'il y a un commandement qui s'appelle AFRICOM, puisque l'armée américaine a des commandements dans tous les pays du monde. Et donc, ouais. C'est sous George Bush, donc fils, qui a été constitué AFRICOM, le commandement de l'armée américaine pour l'Afrique. Qu'ils n'ont pas réussi à installer en Afrique, puisque aucun pays africain n'en voulait. Et donc, ils sont installés à Ramstein, en République fédérale allemande. Bon. Mais le nouveau donc, patron de AFRICOM, M. Langley, on lui a dit, parce que je pense qu'il n'a pas trouvé tout seul, il n'a pas l'air très, 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 très finaux. Bon, après, c'est son personnel. On lui a dit, il faut aller parler avec les Africains parce qu'on n'a pas le contact. Ils nous voient venir depuis l'Allemagne, on leur donne des conseils. Ils disent, mais qu'est-ce que vous venez faire ici ça? Alors, il est allé organiser une espèce de contact avec le public sur des chaînes de télévision kényanes, carrément depuis Nairobi. Il a été pas à la hauteur du coup, c'est-à-dire qu'il a annoncé, on est gentil avec vous, on vous aime, on est les meilleurs, on est forts, etc. Faites-nous confiance. Ça n'a pas trop marché. Et j'ai regardé toutes les réactions donc des gens qui ont regardé ce spectacle télévisé. Qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Il ne nous apprend rien, ils sont mauvais, et donc on va travailler avec d'autres parce qu'ils ne sont pas sérieux. Mais c'est ça, donc, l'utilité de gens plus fiables, plus du terrain, comme les gens qui sont manipulés par les Israéliens, plutôt qu'un général américain qui arrive avec ses gros sabots et qui manifestement n'est pas un politique. Alors on lui a dit d'aller dire qu'il aimait bien les Africains. Les Africains ont rigolé doucement et puis ça s'est arrêté là. Et donc là, dans ce jeu-là, où la diplomatie américaine n'est pas très brillante, les Israéliens jouent un rôle, ils sont sur place, ils vont aider, ils vont dire, il y a ça à défendre, il y a un tel qui est intéressant, il y a un tel, on l'a corrompu, on l'a suborné, etc. Ils servent un peu de poisson pilote aux opérations états-uniennes sur le continent. Et au passage, poisson pilote aux opérations états-uniennes, ça veut dire les Israéliens qui sont là disent, attention, là la Chine a une position de plus en plus forte. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont acheté ceci, ils ont investi là, etc. Les Russes viennent de poser une base, viennent de passer un accord militaire et tout. Donc en fait, Israël, les services de renseignement d'Israël, donc le Mossad et tout, servent d'agence de renseignement pour le camp américain en Afrique. Oui. C'est ça la réalité. Parce que les Américains sont un peu, comparativement un peu balourds, ça change tout le temps. Ils ont des militaires qui sont des militaires pur jus, qui ne sont pas des diplomates, etc. Et donc les Israéliens sont beaucoup plus malins dans ce genre d'opération. Et voilà l'utilité. Donc ne soyez pas surpris si on vous dit qu'Israël a un rôle très très important dans la politique africaine. Alors ça a pu évoluer depuis le temps de l'apartheid, où là c'était tout à fait clair, mais c'est sur le cas de l'Afrique du Sud. Ça continue sous une forme adaptée aux circonstances, et donc considérer Israël comme l'agent des États-Unis sur le continent. Le cœur
de l'Amérique.
Voilà, et comme l'agent des États-Unis sur le continent africain, qui est un continent, on le sait, disputé entre plusieurs influences. C'est l'influence entre les BRICS, la Chine, la Russie, tout ça est connu. Ça méritait d'être un petit peu explicité. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ah oui, je voulais vous raconter une petite histoire de drone, encore une. Monsieur Le Cornu, notre ministre de la Défense, vient d'annoncer que Renault allait fabriquer des drones.
Oui.
Ah, alors Renault, ce n'est pas son métier. Renault n'a jamais fabriqué d'armement. Bon, s'ils ont fait un certain nombre, ils ont fait des chars, mais c'était avant la Deuxième Guerre mondiale ou pas.
Ils ont fait des canons, je crois.
Voilà. Ouais. Bon, mais ça, ils ont abandonné. Bon, alors Renault, je ris parce que il l'a dit lui, et puis il y a des journalistes qui essayant de faire leur travail ont demandé à Renault si c'était vrai. Renault a refusé de répondre. Alors l'idée de M. Le Cornu, elle est très simple. Voilà, vous aviez une usine dans la région de Moscou qui fabriquait des véhicules qui étaient vendus sur le marché russe. Aujourd'hui, vous l'avez fermée parce qu'on vous dit de la fermer. Vous êtes parti comme des malpropres et l'usine a été rachetée par quelqu'un d'autre, c'est tout. Et vu ce qui s'est passé, vous ne vendrez plus jamais une voiture Renault sur le sol de la Russie. D'ailleurs, les compagnies chinoises ont pris la place largement. Tant pis pour vous. Alors quand même, ça leur fait de la peine, ça fait un trou dans le chiffre d'affaires. Et il leur dit, alors ça, c'est l'idée de M. Lecornu. Mais donc, si vous fabriquiez des drones, ça vous donnerait une branche armement. Alors là, vous auriez une partie des milliards que Mme von der Leyen veut collecter dans la poche des citoyens européens. Et vous pourriez faire une usine de drones en Ukraine. Ça vous ferait un élément nouveau dans votre chiffre d'affaires. Puis une autre spécialité, vous feriez une filiale ou drone, les drones Renault. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils achèteraient la technologie, où est-ce qu'ils trouveraient le personnel pour faire ça. Bon, je pense que ça doit être possible, avec une échéance peut-être à quelques mois ou quelques années pour y arriver. Mais ce qui est étonnant, c'est que bon, M. Lecornu annonce ça urbi et orbi, c'est-à-dire très très officiellement, Renault va fabriquer des drones en Ukraine. Donc, une entreprise française qui a déserté le sol russe sur consigne politique, parce que Renault pourrait dire « Vous m'avez obligé à fermer mon usine, ça m'a coûté tant, voilà ce que j'ai perdu. J'ai laissé du matériel, j'ai laissé toute une usine sur place, moyennant rien du tout, aucune indemnité. Vous pourriez m'indemniser, vous m'avez obligé à fermer une usine qui marchait, hein, j'ai perdu tant. » Au lieu de quoi, Renault, qui est trop gentil, fait l'âne, non, on ne répond pas à la question. Hein. » Alors, on en est dans une situation ridicule, mais M. Lecornu veut montrer par là à Mme von der Leyen et à M. Emmanuel Macron que la France s'engage de plus en plus dans la guerre en Ukraine, ce qu'il en reste. Voilà. Alors, bien sûr, avec sous-entendu, je l'ai dit, mais même pas sous-entendu, pour réinstaller votre usine de drones, comptez sur les milliards qu'on va prendre dans les poches des contribuables français. Hein ? Non seulement vous avez perdu, hein, mais en plus on va ponctionner les contribuables français pour que vous fassiez une usine de drones, qui marchera peut-être ou peut-être jamais. De toute façon, il se peut qu'ils installent l'usine. Alors ce sera peut-être trop tard, je pense, vu l'évolution de la situation sur le terrain, mais c'est très possible qu'il y ait encore des milliards français qui viennent installer une usine de drones Renault sur le sol de l'Ukraine, bien mal en point.
Ouais.
Voilà ce qu'il importait de rappeler. Je regarde si j'ai d'autres petites nouvelles croustillantes, s'il en fut. Non, on a plus que 5 minutes. 3 minutes. Alors, très rapidement, je fais un tout petit point. Non, Habib, tu as des points que tu voudrais souligner. Alors,
tu voulais pas parler de Laurent Gbagbo tout à l'heure?
Si, alors oui, raconte, oui. Alors, voilà, exactement. Laurent Gbagbo donc, commence vraiment sa campagne électorale pour les présidentielles du mois d'août, je crois. Hein,
Octobre.
Voilà. Ouais. Et il a commencé une campagne qui paraît bien, bien solide et musclée. Et entre autres, c'est ce qu'il y a sur un des documents qui est sur la clé, là, il y a une des affiches qui dit « Moi, je veux simplement un pays où tout le monde a à manger à sa faim et où on peut aller à l'école sans payer ». C'est tout. C'est pas la grande révolution, c'est pas le socialisme. Non. C'est simplement, il y a à manger dans toutes les familles, dans toutes les maisons, et tout le monde peut aller à l'école gratuitement. C'est ça, ma République.
Et la liberté.
Et la liberté, bien entendu, d'aller dans cette école. Voilà, c'est tout. Alors, vous voyez, c'est pas un grand fracas, j'annonce une transformation de régime, la grande révolution. Je pars de la base, j'allais dire presque à la chinoise. Tout le monde mange, tout le monde est formé. Après, on verra bien ce qui se passera. C'est ça, mon
problème. Ce qui en dit long sur l'état actuel de la Côte d'Ivoire.
Qui a besoin exactement de ça. Que tout le monde ait à manger tous les jours dans son assiette et que tous les enfants puissent aller à l'école, ce qui est loin d'être le cas. Voilà. Donc, il met le doigt exactement là où ça fait mal à la bande à Ouattara. Et donc, ça, coup de chapeau. J'espère que tout va continuer. Il est bien lancé. Excellente campagne. Commencer dans ces conditions-là et avec ce langage-là. Ce langage simple, tout le monde mange, tout le monde est formé, tout le monde est respecté. C'est tellement différent du régime actuel que ça fait presque rêver. Espérons que les Ivoiriens vont rêver tous ensemble ou très majoritairement. Voilà. On les suivra de près, et lui aussi. Merci Roselyne, merci à tous. À demain soir donc sur l'antenne. Merci Habib d'être venu.
Il y avait trop de circulation.
Ah oui, t'as été...